Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Ex-conseillère politique. Et ça, ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
La rentrée scolaire est à nos portes. On parle de plus en plus du retour à l'école. Et qui dit retour à l'école, dit retour sur les sujets qui touchent le milieu de l'éducation. On a parlé de différents sujets durant la semaine. Donc, on parle de ventilation, on parle de pénurie d'enseignants, on parle des autobus. Mon collègue Alexandre Dubé a reçu le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. Et c'est à mon tour de recevoir la porte-parole officielle libérale en matière d'éducation. Madame Marois Risky. Bonjour, Madame Risky.
Bonjour, Madame Abdel-Fadel.
Donc, on voulait vous entendre, entendre vos réactions face aux propos du ministre de l'Éducation. Dans l'entrevue d'hier, le ministre, évidemment, a parlé des trois thèmes qui nous occupent. Commençons par la pénurie de personnel. Vous avez vu l'évolution des chiffres durant la semaine. On est passé de 700 personnes qui manquaient à on va pas avoir aucune classe sans enseignants. Les directions d'école sont sorties ce matin avec 1400 enseignants. Je nous invite à écouter un extrait avant d'entendre votre réaction.
Au moment où on se parle, on est autour de 690 enseignants dont le contrat n'est pas encore signé. Puis je la porte à nuance, j'ai pas dit qu'il manque. C'est pas que ces gens-là n'existent pas sur le territoire québécois là. Il y a des gens qui vont être embauchés ce matin, cet après-midi, ils sont là, ils sont dans le processus d'embauche.
Madame Risky, quel est le bon chiffre pour vous?
Ben, je vais commencer avec les chiffres du départ. C'est-à-dire depuis que les ministres de l'Éducation, mais je vais exclure 2018 parce qu'on était en campagne électorale et par conséquent, ce n'est pas sa rentrée scolaire à lui. Mais dès 2019, il a manqué environ 250 enseignants pour la rentrée scolaire. L'année suivante, on parlait de 500, donc pour 2020. 2021, on en parlait 900 qui en manquaient. Et là, 2022, on est rendu à 1400 postes à combler pour la rentrée scolaire. Et moi, c'est pas tant le chiffre qui mérite, mais c'est surtout le propos suivant, que dans la plupart des classes, il y aura un enseignant qualifié. C'est ce que M. Roberge dit. La plupart, pour lui, ça veut dire quoi? Parce que pour moi, ce n'est pas normal qu'au Québec, on ait des élèves qui viennent à peine de graduer de leur secondaire 5 puissent avoir une dérogation du ministère de l'Éducation pour pouvoir enseigner sur des contrats long terme. Ça n'a pas d'allure. Et ça, ça vient dévaloriser tous ceux qui ont étudié à l'université, qui ont fait 4 ans d'université pour devenir enseignant, qui ont vraiment une formation en pédagogie, de voir leur élève dans la classe à côté d'eux. D'autre part, Daphné Dion-Vien, qui est journaliste pour le Journal de Québec, couvre l'éducation depuis des années. Elle a publié là, tellement d'articles où est-ce qu'on a vu des élèves, durant l'année scolaire, avoir des suppléants et être littéralement là, sur leurs écrans. Ils n'avaient pas de cours. C'était devenu vraiment là, comme une séance de gardiennage de l'école et non pas un lieu d'apprentissage.
Mais on a une pénurie d'enseignants, Mme Risky. Elle est présente, elle est documentée. Quelle proposition, si vous êtes portée au pouvoir et que vous êtes ministre de l'Éducation, vous ferez quoi aujourd'hui pour la rentrée scolaire de la semaine prochaine?
Deux choses. Première des choses, je n'aurais pas mis plein feu sur les maternelles 4 ans, qui est du préscolaire non obligatoire.
Mais on parle d'aujourd'hui, Mme Risky.
Oui, mais c'est là le pourquoi ça a exacerbé. Pourquoi on est passé de 250 à 1400? Il y a une raison. On a mis là, première des choses. Moi, je lèverai le pied là, sur les maternelles 4 ans. Je commencerai par m'occuper du réseau scolaire obligatoire, m'assurer que j'ai des enseignants partout. Deuxième chose, je reverrai la composition des classes. Pour garder nos enseignants, il y a Jonathan Leprof qui a écrit la chose suivante. On n'a pas une pénurie d'enseignants, on a trop de bons profs qualifiés qui quittent le navire parce qu'ils sont épuisés. Parce que justement, la composition des classes, elle est vraiment très, très chargée. Et ça, on doit la revoir. Et ça veut dire que ça nous prend des ressources. Quelles sont les ressources qui manquent? Orthophonistes, orthopédagogues, les psychologues. Donc, c'est toute l'aide qu'on a promis aux enseignants, mais qui n'est pas arrivée. Parce que même si on mettait de l'argent, il y avait des postes à combler durant les 4 dernières années qu'on n'a jamais été capable de combler parce que le privé est trop compétitif par rapport au public. Ça, c'est une chose qu'on doit régler. D'autre part, dans la fiscalité des travailleurs, ce que nous, au Parti libéral du Québec, on propose là pour vraiment, là, puis ça, c'est une proposition que ça fait 2 ans là, qu'on la maintient, c'est de ramener les enseignants à la retraite, de revenir avec nous sur les bancs d'école, mais il faut que ça soit attractif sur le plan fiscal, parce que sinon, là, ils reviendront pas s'il y a une ponction trop importante au niveau de l'impôt. Alors nous, on veut revoir ça, et c'est là qu'on propose que le premier 30 000 $ soit exempté d'impôt.
Deuxième sujet qui nous occupe, celui des négociations qui sont dans une impasse entre les transporteurs scolaires et le gouvernement du Québec. À quelques jours de la rentrée, il y a des parents à qui on demande déjà de prévoir des plans B pour le transport de leurs enfants à l'école. On va écouter l'extrait de Jean-François Roberge sur la question et après je vous pose ma question.
On va les avoir, nos chauffeurs d'autobus.
Vous êtes sûr de ça?
Oui. En fait,
j'ai
une grande confiance. Vous avez raison de dire qu'il reste des contrats à signer. Mmh. Mais on s'est pas intéressé à la question hier ou avant-hier. Là, ça fait des mois qu'on négocie avec les transporteurs. Il y a plusieurs contrats qui sont déjà signés. Il y a des contrats qui se signent à chaque jour. Hier, on a posé un geste important. Mmh. On a nommé un négociateur national, M. Sauvageau.
Madame Risky, vous avez entendu Jean-François Roberge. Croyez-vous qu'on va pouvoir dénouer l'impasse d'ici la rentrée scolaire?
On n'a pas le choix de dénouer l'impasse, là. Écoutez, les parents veulent pas d'un plan B, ils veulent que le plan A fonctionne. En fait, c'est 60% des contrats qui ne sont toujours pas signés. Ça a un impact sur 300 000 élèves, non seulement le Grand Montréal, Lanaudière, Laurentide, l'Outaouais, l'Estrie. Donc, ça prend le plan A qui fonctionne. Moi, j'ai parlé avec la Fédération des transporteurs scolaires du Québec. Ça fait des mois que j'ai alerté M. Roberge. Il y a une mesure transitoire qu'on est capable de mettre en place pour au moins le donner, là, parce que un des enjeux principaux dans tout ça, c'est au niveau du prix de l'essence. Il faut savoir qu'avant, le ministère du Transport venait compenser lorsque le prix de l'énergie, c'est-à-dire l'essence ou le diesel, coûtait plus cher. Il venait compenser les transporteurs. Là, il ne le fait pas à la même hauteur et ça fait en sorte que plusieurs transporteurs n'y arrivent plus à boucler. Et je les ai vus leurs factures, là. Eux autres, là, c'est pas 200 $, ça coûte même de diesel, ça peut coûter jusqu'à 400 $. Alors, ça coûte très cher. Alors, je veux vraiment, là, que ça fonctionne et la fédération m'ont dit qu'eux sont prêts à négocier toute la fin de semaine. Ce qui est dommage, c'est qu'on est à 10 jours de la rentrée et qu'on vient stresser les parents, alors que ça aurait dû être réglé depuis plusieurs mois.
Le dernier sujet sur lequel je voudrais vous entendre, c'est celui de la qualité de l'air dans nos écoles. Puis là, cette semaine, on se flattait dans le dos. Là, le Louis-Joseph Papineau va enfin avoir des fenêtres. Puis on a des lecteurs de CO2 un peu partout. Puis la ventilation mécanique, on n'en a pas besoin. La vérité, c'est que les experts restent quand même assez... ils trouvent ça curieux, la décision de Québec de ne pas installer de ventilation mécanique dans la grande majorité des écoles. J'en vais encore entendre Jean-François Roberge et je vous reviens après l'extrait.
On a investi 500 millions pour améliorer la ventilation, en plus des lecteurs CO2. Mmh. Puis 225 millions cette année. Donc, les travaux ont été faits. Et oui, c'est vrai, dans certaines classes, c'est mesuré, c'est validé. Puis les écoles ont été conçues comme ça par des ingénieurs. La ventilation, l'aération se fait en entrouvrant quelques fenêtres, d'accord, en hiver. Il n'est pas question de faire mettre la tuque, ouais, les gants, les foulards aux élèves.
Pourquoi la qualité de l'air, Mme Risky, n'est pas une priorité pour le gouvernement du Québec, d'après vous?
Parce qu'ils sont ventilo-sceptiques. La première fois qu'on a parlé de la ventilation, mais c'est pas des farces, la première fois que j'en ai parlé, je m'en rappellerai toujours, au Salon Rouge à l'Assemblée nationale à Québec, je montrais les chiffres de l'Ontario le 17 août 2020. Là. Et l'Ontario investissait massivement dans la ventilation. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà à ce moment-là des études scientifiques qui démontraient que la COVID-19 se transmet principalement par aérosol. Et par la suite, je n'ai jamais lâché le morceau. J'ai déposé toutes les études scientifiques. Il y a un consensus mondial sur cette question. La COVID-19, c'est principalement par aérosol et par conséquent, on doit s'attaquer à ça. Maintenant, permettez-moi de revenir sur certains chiffres. Quand il parle de 500 millions, premièrement, là-dedans, il inclut des travaux là, de calfeutrage de fenêtres. Il inclut des travaux de maintenance qui étaient déjà prévus pour des échangeurs, d'aventations mécaniques. Et il oublie carrément de dire que 54% des écoles du Québec, c'est la ventilation qu'on appelle naturelle, donc on ouvre les fenêtres. Et moi, je me rappelle très bien des vidéos que des parents nous envoyaient avec leurs enfants qui littéralement là s'en allaient avec leur tuque puis leur mitaine, leur fleurs en classe, et la une du journal de Montréal où est-ce que d'une part on dit Hydro-Québec demande aux gens de réduire leur consommation énergétique et d'autre part les fenêtres du Québec dans les écoles sont grandes ouvertes. C'était honnêtement là honteux parce qu'en 2022 au Québec, c'est pas vrai qu'on n'est pas capable de prendre des décisions intelligentes basées sur la science et les purificateurs d'air à filtre pas. Moi, ce qui m'a vraiment jeté à terre, puis là, j'ai compris que le gouvernement riait de nous. Rappelez-vous, ils nous ont dit et répété, ça peut donner un faux sentiment de sécurité dans les écoles si on installe mal un purificateur d'air à filtre HEPA. Quand je suis arrivée pour faire les crédits, j'ai découvert que Éric Kerr, qui a un nouveau ministère, cybersécurité, ben lui, il a eu le droit d'acheter des purificateurs d'air à filtre HEPA. Donc, ce qui est bon pour Minou n'est pas bon pour Pitou. Donc, pour tout le ministère de cybersécurité, c'est correct. Eux ont le droit d'acheter des purificateurs d'air à filtre HEPA, mais les parents qui sont cotisés, les équipes écoles qui sont cotisées avec leur propre argent, eux sont vus interdire d'installer gratuitement des purificateurs d'air à filtre HEPA. Donc, oui, ils sont ventilo-sceptiques et c'est pas normal qu'on recommence dans une 8e vague puis que la seule solution qu'on a, c'est d'ouvrir les fenêtres.
Madame Risky, j'aimerais vous entendre sur la prochaine campagne électorale très rapidement et avant de conclure. Tout porte à croire que le Parti libéral va connaître un dur échec le 3 octobre prochain. Serez-vous de la course au leadership qui risque d'avoir suite à cette défaite que l'on prévoit?
Là, il y a deux hypothèses là-dedans. Là, premièrement, là, vous partez en disant comme quoi qu'on va connaître un échec. Moi, je suis optimiste, là, puis notre équipe aussi est très optimiste. Alors oui, on a une campagne électorale qui se dessine devant nous. Elle est pas mal déjà lancée, même, je vous dirais. Puis on a l'intention de faire vraiment là, du terrain pour aller porter notre message, puis évidemment nos idées, puis de convaincre les électeurs. C'est exactement à ça une campagne électorale. Et moi, je vais me permettre un petit commentaire. J'ai déjà été candidate dans un comté que tout le monde disait perdant au fédéral. Puis, on était troisième, les gens ne pensaient pas qu'on allait gagner. Puis finalement, ben, on était portés au pouvoir. Puis oui, j'ai perdu par 500 voix. Mais tout ça pour dire, une campagne, là, tout peut arriver. Puis nous, on y croit. Puis Bruno Marchand, je vous rappelle, qui est parti de 1% et que finalement, il est rendu maire de Québec. Alors moi, je crois beaucoup au terrain. Et notre équipe, Dominique Anglade, a été partout cet été au Québec pour aller rencontrer les gens. Alors, moi, je suis très confiante encore. Et pour la suite, là, j'ai commencé, comme vous le savez, j'étais à 7 mois et demi présentement. Moi, mon objectif, peu importe ce que les gens disent, là, c'est de livrer aussi non seulement une élection, mais un beau bébé en santé.
On vous le souhaite. On vous souhaite un beau bébé en santé et bonne chance pour les prochaines élections et pour ce qui pourrait suivre après ces élections. Marois Risky, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes porte-parole d'opposition officielle en matière d'éducation et députée de Saint-Laurent pour le Parti libéral du Québec.
Merci beaucoup. Bonne journée.